Bienvenue aux Apatrides Anonymes du jeudi 18 mai 2023 en direct de choc.ca, la radio de l'UQAM ou sur les ondes FM de Radio Victoria. Simon avec vous à l'animation et contenu en collaboration avec Mathieu. Salut Mathieu.
Bonsoir Simon.
Ça va bien?
Ben oui, toi?
Oui, il y a Marie-Ève qui est physiquement avec nous, mais à cause de difficultés vocales, elle va rester à la console au Python pour la prochaine heure et quart.
Yo!
Ah, est quand même capable de sortir quelques sons, donc petit bonjour Marie-Ève, gêne-toi pas d'intervenir si ça te tente avec des commentaires à droite et à gauche, à gauche surtout, on va espérer. Les Apatrides Anonymes, c'est the rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur les absurdités frontalières et sécuritaires, les régimes oppressifs, le racisme ici comme ailleurs, les grands et petits mouvements migratoires, les facteurs et les contextes qui poussent les gens à fuir leur maison, souvent en catastrophe. J'en profite pour vous donner les premiers chiffres de l'émission. On plonge directement, il y en aura d'autres dans la prochaine heure et quart. Des chiffres du Soudan, qui est beaucoup dans l'actualité depuis le début du conflit, il y a déjà plus d'un mois, le 15 avril. Les statistiques les plus récentes de l'Organisation internationale des migrations indiquent pour l'instant entre 700 000 et 800 000 déplacés internes, qu'il faut ajouter aux quelques 3,7 millions de personnes qui étaient déjà déplacées avant le début officiel du conflit actuel. Malgré l'intensité des combats, les déplacements sont lents, les gens n'ont plus accès à leur argent, le système bancaire est paralysé et il n'y a pas d'essence pour la population civile. Donc ça se fait tout à pied et peut-être à dos même de charrettes, d'ânes, de cheval. Il y aurait quand même malgré tout entre 150 000 et 200 000 réfugiés qui ont réussi à atteindre les pays voisins, surtout l'Égypte. Conflit intense, mais aussi qui n'était pas vraiment sur les radars et qui a escaladé à une vitesse folle, donc les ONG ou les pays voisins, personne n'était préparé à cet exode important et assez soudain. Donc voilà, c'est comme ça qu'on met la table. Oui, Mathieu?
Mais peut-être juste dire aussi que les chiffres qui sont sortis hier, c'est qu'un Soudanais sur deux est en urgence humanitaire au niveau alimentaire.
Donc c'est un niveau de crise comme qu'on peut voir, par exemple, voyons dans la péninsule arabique, là,
au Yémen.
Au Yémen, merci.
Mais ça a doublé en un mois. En un mois de guerre, le nombre de personnes a doublé en urgence alimentaire.
OK, parfait. Puis comme je disais, beaucoup de difficultés pour les ONG à se rendre sur place, donc pour porter secours à... 6 millions de personnes, finalement.
Tout à fait. Même les groupes sur place qui étaient déjà là. Oui, tout à fait.
Fait que toi, Mathieu, tu vas être là tout au long de l'émission. Tu nous présentes du local, des enjeux d'immigration, enjeux autochtones d'ici et d'ailleurs.
Exact.
OK, en deux blocs séparés. Tu as aussi un segment racisme ordinaire pour nous.
Oui, Québec-Canada, oui.
Parfait. Et moi, je vais ajouter quelques actualités allemandes, turques, lituaniennes et croatiennes, un agenda culturel et militant. Et on aura pas moins de 4 pièces musicales
Ooh,
aujourd'hui.
Yes.
Donc voilà, vous êtes sur choc.ca aux Apatrides Anonymes et on commence ça dans quelques secondes. Quelques enjeux Québec-Canada sous forme un peu éditoriale, je vais me risquer, qui ont des enjeux qui ont glissé, parfois dérapé ou carrément changé de ton. Il s'est passé vraiment plein de choses dans les dernières semaines. D'abord, depuis la fermeture, entre guillemets, du chemin Roxham, ce qui était autrefois l'obsession principale à Québec, chemin Roxham, ça a été complètement évacué, donc fallait combler le vide identitaire avec autre chose, et on n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Québécois et sa milice de chroniqueurs en tir groupé ont mis le feu aux poudres avec leur grand dossier explosif du 6 mai, le Québec pris au piège, avec en une pauvre et fragile fleur de lys coincée dans un méchant piège à ours canadien. En fait, tout ce cirque, tout ce battage, ça part du recyclage d'une proposition d'un groupe de travail ministériel qui avait été formulé en 2016 et jamais adopté officiellement par le gouvernement fédéral. Ça a quand même permis à nos xénophobes habituels, autant médiatiques que politiques, de surfer là-dessus pendant 2 semaines, de parler librement de théories alt-right, trumpistes, complotistes comme le grand remplacement et au final surtout de générer ben du clic et des revenus publicitaires. Une orientation un peu plus officielle du gouvernement fédéral, puisque déclarée par Trudeau lui-même, ce serait éventuellement d'atteindre le nombre de 500 000 immigrants reçus par année d'ici 2025, ce qui semble assez improbable puisqu'actuellement on est autour de, je crois, 200 000. Mais je le rappelle, ce 500 000 immigrants possibles par année pour l'ensemble du Canada, c'est un chiffre officieux qui n'a pas fait l'objet d'annonces officielles. Donc les épouvantails qu'on agite à Québec contre l'immigration dite de masse, C'est souvent les mêmes, manque de personnel dans les services publics, pas assez d'infrastructures, pas assez de logements, mais ça, on n'insiste pas trop là-dessus parce que ça impliquerait de reconnaître qu'il y a une crise du logement. Mais l'épouvantail en chef, le français qui est menacé. Donc, il y a pourtant des solutions à ça, par exemple, bonifier les programmes de francisation, déprécariser les gens pour qu'ils aient le temps de suivre les cours de français et les réussir, mais surtout, arrêter de nuire à l'immigration francophone. On le sait déjà, mais pour rappel, c'est beaucoup plus facile pour les francophones d'immigrer hors Québec qu'au Québec. Déjà, il y a une étape de plus ici, le certificat de sélection du Québec, qui prend à peu près 6 mois et qui coûte de l'argent. Les coûts, en général, sont plus importants au Québec. Le permis de travail est plus difficile à obtenir au Québec que dans la plupart des autres provinces. Le niveau de refus général est plus élevé au Québec via le programme ARIMA qu'au fédéral avec le programme Entrée Canada. Le fédéral accorde beaucoup de points aux francophones dans son évaluation des dossiers parce qu'il a une volonté ferme de renforcer les communautés francophones hors Québec, ce qui est parfois suffisant pour obtenir une acceptation de manière quand même assez rapide. Sans compter sur la réputation du Québec qui commence à être passablement noirci, donc le mot se passe en Afrique, au Maghreb, en Europe francophone, que c'est plus facile d'immigrer dans les autres provinces, sans compter toutes les ratés qu'on a connues, les catastrophes du PEC, les 18 000 dossiers d'immigration jetés à la poubelle, les lois discriminatoires, etc. Donc, comme dirait l'autre, lâchez-moi avec le français, puis si c'est vraiment un souci, ben qu'on répare nos programmes tout croche et notre bureaucratie sclérosée, et qu'on arrête de nuire aux candidats francophones, souvent très diplômés, qui veulent s'établir ici, quand, après 2 ans, ils sont souvent pas encore fixés sur leur sort, ailleurs qu'ailleurs au Canada, parfois en 6 mois, tout est réglé. Autre dossier dont le discours semble glisser assez rapidement, celui de la régularisation massive des sans-papiers, estimée à au moins... on dit 200 000, j'ai même lu jusqu'à 1 million, c'est très difficile.
Au Canada ou au Québec, tu parles?
Dans l'ensemble du Canada.
Ouais, ça peut aller jusqu'à 1 million, ouais, selon les chiffres.
C'est ça, il n'y a pas de chiffre clair, mais comme tu dis, c'est parfaitement possible que ce soit 1 million. Donc, c'était une promesse du gouvernement Trudeau qui tarde à se réaliser, dont on attend toujours les détails. La position du gouvernement caquiste semble s'être adoucie, si on se fie à ce qu'en dit la ministre québécoise d'immigration, Christiane Fréchette, dont le discours est quand même moins violent, un peu plus bienveillant, disons, que celui de son prédécesseur Rolin Barrette, comme dirait
Rolin Barrette, oui.
Elle se dit ouverte à étudier ce que le fédéral va proposer et reconnaît que les personnes en situation régulière ont eu des parcours difficiles et sont exposées, de par leur absence de statut, à beaucoup de dangers. Ce sont ces mots, et venant d'une caquiste, c'est quand même surprenant de sensibilité. Mm-hmm. Donc, à voir si Mme Fréchette est sincère et si elle réussira à faire fléchir les positions traditionnelles de la haute direction du parti ou si c'est juste un écran de fumée pour ne pas alimenter les accusations récurrentes de xénophobie à l'endroit du gouvernement. Début mai, c'était l'étude des crédits budgétaires de la CAQ, exercice qui est l'occasion pour les partis d'opposition de questionner les différents ministres. Il y a eu des échanges intéressants entre cette Madame Fréchette et, entre autres, le nouveau député de Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard, qui est un spécialiste en immigration et porte-parole, ça tombe bien, de Québec solidaire en matière d'immigration. Il s'annonce assez efficace, je pense, dans son rôle. Lui et d'autres députés de l'opposition insistent sur le fait que les consultations à venir à l'automne sur l'immigration excluent complètement les travailleurs temporaires, qui sont au moins 300 000 au Québec et dont le nombre est toujours croissant. Et bien évidemment, le fait de les exclure complètement des discussions sur l'avenir de l'immigration, ça rend les données incomplètes, ça évacue toutes sortes de questions sur les budgets, les services à planifier, les infrastructures. Beaucoup de ces gens dits temporaires sont quand même ici de manière récurrente, soit année après année, ou carrément enracinés de manière continue. Paient des impôts sans même des fois avoir accès à plusieurs services publics. Bref, toute une population qui est ignorée, mais la ministre dit « Non, on n'en parlera pas, les consultations qui auront lieu à l'automne porteront seulement sur l'immigration dite permanente. » Donc, alors que lui, le fédéral, de son côté, vient de décider d'allonger de 2 ans un projet pilote pour les travailleurs temporaires, qui devait finir en 2023, et qui favorise de plus en plus les permis de travail ouverts plutôt que fermés, donc moins exclusif à un seul employeur et qui aussi permet éventuellement de soumettre sa candidature à la résidence permanente. Donc voilà pour la mise à jour légèrement éditoriale. Je crois que j'ai pas été trop dur.
Non, tu as été assez mollo, Simon. Puis l'initiative du siècle, là, tu parlais là, de...
Ben c'est nébuleux. C'est, on verra, 2000, comme on
si
dit.
2100, 100 millions de Canadiens, c'est ça qui a fait sauter beaucoup les chroniqueurs.
Ouais. De toute façon, il faudrait voir juste avec les tendances actuelles à cette année-là, on serait rendu à quoi, 75 millions ou je sais pas.
Oui, non, c'est un truc un peu de lobby, là, de toute façon, on s'entend. Mais oui, c'était très bien, Simon, t'as fait le lien plein de choses, et puis, mais il en sort des nouvelles. Aujourd'hui, ils ont sorti encore des chiffres sur les étudiants francophones acceptés par le Canada ou pas, c'est sorti ce matin.
J'ai pas eu le temps de voir
donc,
ça.
Donc, on fera la suite, là, dans deux semaines, là, c'est sûr. Là.
Parfait. Donc, la suite de notre émission est assurée.
Oui, l'actualité nous cajole.
Donc, toi, tu t'en vas plus vers les enjeux autochtones.
Oui, ben on parle depuis quelques temps à l'émission, mais c'est beaucoup dans l'actualité quand on cherche un peu, c'est pas nécessairement dans les premières nouvelles, mais les enjeux territoriaux, revendications des Autochtones au Québec et au Canada. Je vais commencer avec une nouvelle sur les Métis. Des regroupements de Métis de l'Ontario, de l'Alberta et de la Saskatchewan ont signé avec Ottawa un nouvel accord d'autonomie gouvernementale qui les place sur un pied d'égalité constitutionnel avec le grand groupe des Premières Nations et Inuit, et qui ouvre la porte à de nouvelles négociations, notamment sur des indemnisations pour les territoires perdus. L'accord stipule que les trois groupes constitués ont compétence sur les questions relatives à l'exercice des pouvoirs internes et de base, comme celles liées à la citoyenneté, aux élections et à l'administration. Il donne au gouvernement autochtone autonome le contrôle du bien-être de la famille et de l'enfant dans leur communauté. On a souvent parlé de ça. D'autres accords seront éventuellement négociés pour traiter des problèmes liés, par exemple, au territoire, à la chasse et à la pêche, et à d'autres éléments qui pourraient être plus controversés, comme l'accord ouvre également la porte à des négociations, y compris une indemnisation pour le tristement célèbre programme de certificat des Métis, que je connaissais pas.
Ah bon? OK. Non, je connais pas très bien les détails non plus.
Non plus, hein? À la fin du 19e siècle, les Métis recevaient des certificats, une sorte de coupon, en échange des terres qu'ils occupaient depuis des générations.
OK.
Le certificat était destiné à indemniser les Métis pour l'extinction de toute revendication future sur ces terres.
Ah, c'était pour acheter un peu la paix, là.
Oui, oui, puis c'était évidemment des colons et des entreprises, entre autres, des investisseurs. Mais le programme a été teinté de fraude. Certains prétendent que de nombreux Métis ont vu leur nom falsifié sur les documents de transfert de terres. D'autres ont été victimes de spéculateurs qui ont acheté des terres métis pour une bouchée de pain. Les Métis se sont souvent retrouvés sans territoire sur des terres qu'ils avaient l'habitude de parcourir librement depuis très longtemps.
Okay.
Donc ça, c'est un exemple, bon, avec cet accord-là qui pourrait rétablir. Mais là, l'accord avec les Métis, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Ça, c'est arrivé encore plus récemment, il y a une semaine. L'opposition des Premières Nations continue de grandir face à la reconnaissance du droit à l'autogouvernance de la Nation Métis de l'Ontario, NMO, la Nation Métis de l'Ontario.
Okay.
Ses leaders autochtones se rallient derrière le conseil tribal Wabun, qui a soumis une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale pour faire annuler l'entente signée en février dernier avec les Nations Métis.
Ah bon? Ben OK, pourquoi?
Ben, tu vas voir, c'est ça, c'est quand même intéressant. Le conseil tribal Wabun et les Premières Nations qui font partie de cette organisation rejettent l'existence de toute communauté métisse sur le territoire ontarien, ce qui inclut plusieurs communautés qui ont été reconnues par le gouvernement ontarien en 2017, ce qu'on appelle des communautés métisses historiques. Le Grand Conseil du traité numéro 3, qui représente les Premières Nations situées entre Thunder Bay et la frontière manitobaine, est lui aussi extrêmement préoccupé. Il dénonce l'opacité et le manque de collaboration du fédéral, qui a négocié séparément avec les Nations métisses. Il déplore aussi que NMO, la Nation métisse ontarienne, associe les ancêtres Anishinaabe d'origine mixte à la Nation métisse, qui serait pas vrai selon eux. Je cite un des porte-parole du Conseil. La notion de citoyenneté de NMO est beaucoup trop large. Nous sommes offensés qu'ils utilisent nos ancêtres. On doit rappeler que les Métis forment un groupe autochtone distinct avec une culture, des traditions, une langue commune qui est apparue en Amérique du Nord au début des années 1700. La Cour suprême du Canada a reconnu l'existence d'une communauté Métis en Ontario près de Sault-Sainte-Marie avec l'arrêt Parley en 2003. Ce jugement historique a aussi établi le critère du lien ancestral avec une communauté métisse historique qui est nécessaire à la reconnaissance des droits des métisses par la Constitution. Le terme métisse ne vise pas toutes les personnes d'ascendance mixte indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes, façons de vivre, identité collective reconnaissable et distincte de celle de leurs ancêtres indiens, d'une part, et de leurs ancêtres européens, d'autre part. Ces peuples ont pris leur essor avant que les Européens ne consolident leur emprise par la colonisation sur le territoire. La présidente de NMO, la Nation métisse, Margaret Froh, affirme que l'entente ne concerne pas le territoire ou les droits liés à la terre, mais seulement l'autonomie de la Nation métisse dans la gestion de ses affaires sociales et économiques. La mauvaise compréhension et l'opposition venant des Premières Nations sont très décevantes, selon elle. Dans le fond, les Premières Nations craignent que ce traité nuise à leurs droits et qu'il y ait des enjeux territoriaux entre les Premières Nations et les Métis.
Dans le fond, ils devraient peut-être se parler plus aussi. Oui. Je ne veux pas faire mon paternaliste.
Non. Ben, le fédéral, c'est vrai, aurait peut-être pu mettre tout le monde ensemble là-dedans, mais c'est particulièrement en Ontario que ça fait problème pour l'instant parce qu'il y a d'autres provinces aussi qui... Il y a d'autres, les accords signés, donc, sont pas les premières à connaître les organisations métisses en tant que gouvernement autonome. Celle du Manitoba avait signé une entente en 2019 et des négociations sont en cours avec des groupes métisses des territoires du Nord-Ouest et de la Colombie-Britannique aussi, mm-hmm. en plus de celles qui ont été donc acceptées récemment. Donc, mais c'est un enjeu dont les médias parlent pas beaucoup, mais je trouve ça intéressant.
Non, effectivement, tu nous permets comme de mettre une lumière là-dessus quand même un peu.
Il me reste un petit peu de temps ou...
Une minute, semble-t-il.
Ben, toujours en Ontario, 10 Premières Nations d'Ontario menacent de poursuivre le fédéral et le gouvernement fédéral et provincial en lien avec le traité numéro 9, affirmant qu'elle devrait être sur un pied d'égalité avec les gouvernements en matière d'exploitation des richesses naturelles, y compris les gisements du cercle de feu, dont on a déjà parlé.
Oui.
Les plaignants réclament 95 milliards de dollars en compensation pour leur exclusion des recettes de l'exploitation minière et forestière sur leur territoire au cours des 120 dernières années.
OK.
12 lois provinciales et fédérales pourraient être déclarées inconstitutionnelles, que ce soit en matière de mines, de pêche ou de conservation de la faune, si les plaignants ont gain de cause. Pour rappel, le cercle de feu est un secteur du nord de l'Ontario, nord-ouest, riche en minéraux qui entrent dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, entre autres. Et le gouvernement de Doug Ford...
Les fameux minéraux critiques, là.
Exactement. Le gouvernement de Doug Ford compte construire une route pour faciliter l'exploitation des 10 minéraux. Les plaignants ont donc 30 jours pour lancer un recours judiciaire après le dépôt de l'avis de poursuite qui a été déposé récemment. Les Premières Nations pressent les gouvernements de discuter avec eux plutôt que de faire face à de longues et interminables procédures judiciaires. Donc, voilà, c'est ce qui se passe en Ontario un peu aujourd'hui.
Ça, c'est en cours, cours supérieur de l'Ontario?
Ça va être en cours fédéral. C'est des trucs qui sont en cours fédéral direct, puis en cours suprême après. Mais c'est pas encore... Ils menacent de déposer, mais on parle de 100 milliards, donc ça serait un autre dossier... très onéreux pour le gouvernement fédéral de Justin Trudeau.
Quand même, c'est ça.
Voilà, j'avais d'autres nouvelles, mais on les gardera pour la prochaine fois.
Super, merci Mathieu. On reste, on s'en va en musique, mais toujours avec, c'est une artiste autochtone, Canon, et ça va être la pièce « Fuck That Shit ». Canon, une artiste inoue originaire de Ouachat-Malioténam sur la côte nord. Son nom complet, Karen, et non Canon, Pinette Fontaine, c'était la pièce Fuck That Shit qu'on dédie à Mathieu, une suggestion?
On dédie À Doug Ford.
On dédie.
À Doug Ford.
Doug Ford et son 100 milliards.
Et son cercle de feu.
Donc, c'est le premier single apparu il y a quelques mois de l'album Michoap, qui lui vient tout juste d'apparaître dans son entièreté. Donc, Canon sera d'ailleurs dans plein de festivals cet été pour en faire la promotion. Et c'est actuellement en troisième position du palmarès franco de Choc. Et c'est aussi l'album du mois sur Nicamowin, la plateforme de musique autochtone. Cool. Sans plus de transition, quelques actualités allemandes, et oui. Maintenant, où actuellement en Allemagne, il n'y a pas moins de 155 organisations qui viennent de lancer une campagne contre une disposition légale vieille de 30 ans, qui date donc de 93, qui stipule textuellement que les prestations publiques de services aux demandeurs d'asile doivent absolument être inférieures à celles données aux citoyens allemands. Le but avoué à l'époque était de dissuader les arrivées en Allemagne en offrant aux migrants qu'un soutien minimal. Donc, pourquoi c'est maintenant qu'on critique cet aspect de la loi allemande sur les prestations sociales? C'est que l'ancien régime de prestations vient d'être remplacé par un tout nouveau régime et on pensait que cette disposition serait révisée ou carrément abandonnée. Mais le gouvernement allemand a décidé de la maintenir telle qu'elle, malgré sa promesse de la supprimer, ce qui aurait permis de se conformer à un jugement de la Cour constitutionnelle allemande de 2012 qui stipulait que cette disposition portait atteinte à la dignité humaine, jugement que le gouvernement allemand n'a pas contesté, mais a toujours ignoré. Ce que ça implique, cette disposition qui demande à ce que les services aux demandeurs d'asile soient inférieurs, ça veut dire moins de services de santé, par exemple, ou encore... Les aides sont fournies, qui sont normalement fournies en argent aux citoyens allemands, le sont souvent sous forme de coupons pour les demandeurs d'asile. Ça peut aussi vouloir dire que pour tous les services pour lesquels il y a des listes d'attente, certains soins spécialisés ou aides psychologiques, par exemple, c'est impossible pour un demandeur d'asile d'obtenir le service. Donc, du côté des groupes humanitaires, on va les appeler comme ça, on parle de violation des droits fondamentaux et on souhaite abolir le nouveau régime de prestations sociales pour les demandeurs d'asile et que tout soit arrimé au régime régulier de prestations dans un régime unique, le même pour tout le monde. On va suivre la campagne qui commence à peine. Il y a déjà des manifestations prévues dans les semaines à venir dans la plupart des grandes villes allemandes. Toujours en Allemagne, on assiste à une forte augmentation de demandes d'asile provenant de la part de ressortissants russes. Peut-être certains diront que c'est anecdotique. Il y en a eu 2400 dans les trois premiers mois de 2023, ce qui est presque autant que pour toute l'année 2022. Surtout des hommes russes, des jeunes hommes de 19 à 30 ans qui sont responsables de cette augmentation et d'après les analyses consultées par Infomigrants, la mobilisation large lancée par Moscou serait le facteur principal poussant les jeunes hommes à fuir le pays pour éviter des accusations criminelles ou des mauvais traitements de la part des autorités judiciaires russes. Donc, oui, Mathieu?
Ils arrivent comme ça à la frontière ou...
Je pourrais pas dire, j'ai pas de détails. Okay. Ils font des demandes une fois à l'intérieur du territoire allemand. Donc, d'après moi, c'est des gens qui sont peut-être déjà partis, mais c'est pas de la migration à pied, là.
Non, c'est ça.
C'est pas comme les Ukrainiens qui sortent à pied carrément du pays, là. Donc, épiphénomène peut-être, mais intéressant du point de vue de l'immigration russe en Allemagne, mais qui au final est peu significatif, environ 1,3% de l'ensemble des demandes déposées. Le ministère allemand de l'immigration a indiqué vouloir offrir une protection complète aux déserteurs russes, donc ce serait intéressant de voir si le phénomène, on va l'observer aussi dans d'autres pays européens et dans quelles proportions. Avant de revenir en Amérique du Nord avec toujours Mathieu, dernier petit point sur l'Allemagne. Depuis le début de l'année, plus de 100 000 demandes d'asile déposées, une hausse de 78% par rapport à l'année dernière, donc c'est une très grosse augmentation.
Okay.
Ça excite beaucoup l'extrême droite qui durcit son discours, qui grossit ses rangs et globalement prend de plus en plus de place. Et en réaction, les discours habituellement plus centristes de la part même du gouvernement ou des médias traditionnels se recordent vers la droite plus dure. Berlin réagit à cette droitisation du discours ambiant en annonçant vouloir serrer la vis et tourner le dos aux politiques d'ouverture des dernières années. Donc peut-être qu'on assiste bientôt tranquillement à une rupture qui est en train de s'opérer. Reste à savoir comment ça va se traduire dans la réalité. Donc à suivre, Mathieu, tu vas nous parler de l'Allemagne, mais plus tard dans l'émission, sous un angle assez différent.
Oui, pas mal, oui.
Et on te retrouve après ce petit pont musical pour un segment « Racisme ordinaire ». Donc, sans plus d'introduction, Mathieu!
Oui, je me lance deux sujets dans cette partie sur le racisme systémique et ordinaire, on peut dire. Oui, ça fait de bien. Mm-hmm. L'islamophobie et la violence à l'encontre des musulmans sont répandues et profondément ancrées dans la société canadienne, selon les premières conclusions d'un comité sénatorial, celui des permanents sur les droits de la personne, qui a étudié la question dans les derniers mois.
Bon, du Québec bashing encore.
Ben, ouais, c'est pas, peut-être pas, non. Les femmes musulmanes qui portent le hijab, les femmes musulmanes noires en particulier, sont les plus vulnérables et il est difficile de faire face à l'islamophobie dans plusieurs sphères publiques, pardon. Le Canada a un problème, a déclaré la présidente de ce comité, la sénatrice Salma Atulajan. Je la cite. « Nous entendons parler de traumatisme intergénérationnel parce que de jeunes enfants en sont témoins. Les musulmans s'expriment parce qu'il y a beaucoup d'attaques et qu'elles sont très violentes. Le problème, selon elle, est plus grave que ne le suggèrent les statistiques actuelles. De nombreux musulmans du Canada vivent dans la crainte constante d'être pris pour cible, en particulier s'ils ont subi une attaque islamophobe, s'ils ont été témoins ou s'ils en ont été témoins ou s'ils ont perdu un être cher à cause de la violence. » Le mois dernier, des chiffres publiés par Stats Canada indiquaient que les crimes haineux contre les musulmans signalés à la police avaient augmenté de 71% entre 2020 et 2021. Les travaux du comité sénatorial ont débuté en juin 2021, peu de temps après que 4 membres d'une famille musulmane sont morts frappés, écrasés par une camionnette à London, en Ontario.
Ouais, c'était pas des personnes noires, par contre.
Non, mais on parle des musulmans en général. Ouais. Les sénateurs, les analystes, les traducteurs et autres membres du personnel du comité se sont rendus à Vancouver, Edmonton, au Québec et dans la région de Toronto pour s'entretenir avec des Canadiens qui fréquentent des mosquées, des musulmans victimes d'attentats, des enseignants, des médecins et des responsables de la sécurité, notamment. La version finale du rapport, que j'ai bien hâte de voir, dont la publication est prévue en juillet, devrait inclure des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre l'islamophobie et sur la manière dont le gouvernement peut mieux soutenir les victimes d'attentats. Parmi les conclusions du comité figure déjà une observation selon laquelle les attaques contre les musulmans semblent souvent se produire dans la rue et semblent être plus directes et violentes que celles contre d'autres groupes religieux.
Ouais.
Le comité s'est penché sur le cas des femmes musulmanes noires d'Edmonton qui ont été violemment agressées ces dernières années. On en avait parlé déjà à l'émission. Le rapport du comité abordera également les violences récentes contre les musulmans, notamment une agression à l'extérieur d'une mosquée de Markham en Ontario où des témoins ont déclaré à la police qu'un homme avait déchiré un exemplaire du Coran, crié des insultes raciales, et tenté d'emboutir les fidèles avec une voiture. C'était à peu près il y a un mois.
Ouais, ça me rappelait, c'était passé un peu la même chose en Suède ou au Danemark. On allait brûler des Corans devant des mosquées.
Ouais, ben ça c'était des groupes organisés par exemple.
Ben ici, peut-être que le rapport nous démontrera que c'est le cas aussi, on verra.
Ah ben il y a un lien avec l'extrême droite, c'est sûr. Au niveau de la montée des chiffres, ça c'est sûr. Le Conseil national des musulmans canadiens a déclaré que les gens, en général, n'aiment pas signaler ce genre de choses. Il leur en faut beaucoup pour aller devant les tribunaux pour parler à la police. On parle des personnes musulmanes. Le comité s'attend à ce que le comité sénatorial fasse des recommandations comme des modifications de la loi sur les crimes haineux, l'élaboration de politiques destinées à empêcher les groupes haineux de se rassembler près des lieux de culte et une loi pour lutter contre la haine en ligne. Donc, ça, c'est pour cette partie-là. Donc, le rapport s'en vient en juillet. Mon autre petit sujet, ben, il est pas léger, mais il est quand même court. Le groupe CGPMO, Canadien pour la justice et la paix au Moyen-Orient, a sorti en avril 2023 un rapport qui s'appelle « Légitimer la haine, des politiciens canadiens font de la publicité sur un site web raciste ». Donc, ce rapport examine le problème de la publicité politique sur dej.ca, site web qui publie régulièrement des contenus racistes, un site web juif sioniste, pour résumer. Okay. CGPMO a trouvé sur ce site des publicités au nom de Pierre Poilievre, de Doug Ford et d'autres politiciens fédéral, provincial, municipal, surtout dans le Canada anglais, ainsi qu'une plusieurs entreprises et organisations à but non lucratif qui publient des publicités là aussi. Le contenu du site web jette le discrédit sur les mouvements de défense des droits civiques des Noirs, les activistes handicapés, les musulmans, les Arabes, les Palestiniens et les revendications autochtones. Okay. Le rapport demande donc aux politiciens de cesser de faire la publicité sur ce site web et de publier des déclarations officielles condamnant les opinions et le contenu de ce site donc de J.ca. Deux exemples en terminant de citations site, d'extraits d'articles. Donc, les vies juives ne sont pas seulement importantes, elles le sont encore plus. Pourquoi? Parce que leur existence contribue davantage au bien public que celle d'autres groupes ethniques. Les Arabes doivent embrasser la modernité car l'alternative islamiste les ramènera au primitivisme tribal du désert. Et je vais terminer avec...
C'est pas juste... c'est comme du suprémacisme sioniste.
Oui, c'est un peu ça, oui. Et je vais donc demander aux deux voix ce que beaucoup pensent tout bas. La tristesse est-elle vraiment la réponse juive appropriée dans ce cas? La mort de Shireen Akhla est-elle vraiment tragique? Je ne vais pas prétendre que c'était une journaliste normale irresponsable dont nous devrions pleurer la mort. On parle de la journaliste américano-palestinienne qui a été tirée par l'armée israélienne l'année passée. Donc, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu parler dans les grands médias. Non. C'est des trucs qui circulent sur les réseaux. Bon, c'est sûr, en lien avec la Palestine, mais c'est sur du racisme de base aussi. Donc, c'est important d'en parler. Même si ça se passe dans le Canada anglais plus. Donc,
Effectivement, des propos quand même d'une grande violence.
Et un site avec qui fait beaucoup d'argent avec les publicités des politiciens.
Et là, là. Bon, ben nous, pour ce... Mais pour
se ragaillardir.
On va aller en musique. J'expliquerai au retour de la chanson qu'est-ce qu'on écoute exactement. Ça s'appelle Blessed the Band, la pièce Felt. Toujours aux apatrides anonymes sur choc.ca, la pièce Felt du groupe Blessed the Band, excellent quatuor de Colombie-Britannique qui existe depuis 2015. C'est sur leur album Circuitus, j'ai la misère à prononcer ça, paru assez récemment. J'aime bien comment Blessed décrit son dernier album, j'ouvre les guillemets. Une tragédie art rock industrielle hyper réaliste et radicale, entourée de murs de sons, de tambours contrôlés, une ambiance sinueuse et saccadée, le disque parle d'agoraphobie, d'isolement, de deuil, d'hyper contrôle du capital et de l'engourdissement qui l'engendre. Rien de moins. Quelques nouvelles européennes non allemandes.
Simon, peut-être juste mentionner.
Oui, ils sont en spectacle bientôt, je crois.
Très bonne description de leur propre style, on peut pas en dire plus. Ils sont en spectacle à Montréal mardi prochain, le 23 mai, à la Casa del Popolo avec Motherhood du Nouveau-Brunswick.
Ouais.
Mais ils doivent être en tournée, j'imagine, au Canada, fait qu'aller vérifier.
Ouais, s'il reste des billets, premièrement.
Ouais.
Donc, j'ai quelques nouvelles européennes non allemandes, Lituanie, Croatie, mais d'abord Turquie, où personne n'a obtenu 50% des voix au premier tour de la présidentielle. Donc, on s'en va en deuxième tour le 28 mai. On saura à la prochaine émission si on peut enfin célébrer la chute d'Erdogan après 9 ans de règne. 9 ans, 10 ans de règne.
20 ans.
20... Hein? Oui, OK, j'ai mal
Premier calculé. Ministre et président. Oui, oui, oui.
On est en 2013. Non, ça... OK, oui, de règne de plus en plus autoritaire. Donc, peut-être revenir sur la campagne électorale qui a été très riche en citations racistes de la part de tous les candidats, même de la part de ceux qu'on nous présente comme progressistes.
Ah oui, hein?
Il faut rappeler que la Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde, environ 5,5 millions, surtout des Syriens, afghans aussi, mais surtout des Syriens. Et on est loin, loin devant le deuxième pays qui en accueille le plus, la Colombie, avec un peu moins de 2 millions de réfugiés. Donc la carte anti-réfugiés a été amplement brandie lors de cette campagne où on a promis le maximum d'expulsion de Syriens vers la Syrie, qui serait un pays sûr, selon la plupart des candidats à la présidentielle. Il y a juste une formation qui se positionnait plutôt pro-réfugiés, une coalition de gauche pro-kurde qui apparaît même pas dans la plupart des tableaux de résultats du premier tour puisque créditée de moins de 1% des voix. Sinon, toutes les autres formations, sans exception, se sont engagées à en renvoyer immédiatement un maximum de ressortissants syriens. La principale opposition à Erdogan, dirigée par son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, coalition des partis suivants. Attachez votre tuque, j'y vais du plus traditionnel au plus funky. Parti démocrate, parti de la démocratie et du progrès, parti républicain du peuple, parti de l'avenir, bon parti et parti de la félicité. Bref, cette très vertueuse table des six avait comme discours autrefois de tolérer la présence de millions de réfugiés en disant que c'était de la belle main-d'œuvre abordable pour l'économie turque. Mais depuis la crise économique, le chômage et l'inflation des dernières années, on a complètement changé sa position et on s'est aligné sur le discours d'Erdogan en qualifiant les réfugiés syriens, ben les Syriens surtout, mais l'ensemble des réfugiés, de profiteurs, de voleurs et même d'assassins. Même si une bonne partie des réfugiés sont bien adaptés, occupent des emplois, leurs enfants sont turcs et vont à l'école. Donc, Kılıçdaroğlu, dit le progressiste, veut renforcer la surveillance des frontières avec toutes sortes de technologies, de drones et en construisant des murs. Il veut rouvrir la plupart des accords, ceux avec l'Union européenne, avec Damas et avec les autres tiers pays qui accueillent des réfugiés. Il veut imposer des visas ou rendre leur obtention plus difficile aux ressortissants de plein de pays, dont surtout les voisins du Proche-Orient. Je pourrais parler longtemps de la Turquie, notamment le climat de haine actuel envers les Syriens qui se traduit par de plus en plus de violences policières ou civiles, commerces incendiés, lynchages, des incidents de moins en moins isolés, mais on aura l'occasion d'en reparler après le deuxième tour de la présidentielle. En Lituanie maintenant, où les autorités profitent aussi d'un climat social malsain anti-migrant, pour adopter une loi très dangereuse qui va permettre aux civils d'utiliser la force à la frontière du Bélarus contre les personnes qui essaient d'entrer de manière irrégulière. Les civils auront des pouvoirs de coercition, de refoulement et même d'arrestation. Ça va se faire sous certaines conditions comme parler le lituanien, résider en Lituanie, être majeur, donc vraiment des conditions qui apaisent pas trop nos inquiétudes de dérapage ou de garantie de respect du droit international. Ça va probablement se passer un peu comme ce qu'on voit avec certaines milices volontaires aux États-Unis, des groupes civils armés comme les Minutemen qui sont impliqués sur une base régulière dans des incidents violents proche de la frontière avec le Mexique. Le texte de loi lituanien prévoit des exceptions pour qui fuirait des conflits armés, mais le douchebag bêta lituanien lâché l'ours dans la forêt avec des armes, il n'aura certainement pas les compétences nécessaires pour juger de la recevabilité des demandes des arrivants à la frontière, et il y a des chances qu'il décide arbitrairement de refouler massivement et sommairement, sans aucun discernement, comme la loi va lui permettre de le faire. Eh bien, selon les conventions internationales, c'est complètement illégal, puisque on le sait, chaque personne qui arrive dans un pays de manière régulière ou non a le droit de déposer une demande d'asile et l'État est dans l'obligation de traiter la demande.
Sauf s'il y a une entente sur les tiers pays sûrs. Hein?
Oui, ça c'est exceptionnel. Je pense qu'il y en a une sur la planète. Amnesty International décrit bien l'adoption de cette loi comme étant la codification de l'illégalité et comme un jour sombre pour la justice lituanienne. Je pense à la Croatie.
Si je peux juste rectifier.
Hey, Marie-Ève, salut Marie-Ève.
Je peux juste rectifier. Il n'y en a pas juste une sur la planète. Il y a, les Dublinés en Europe qui est un peu la même,
c'est
la même genre de procédure.
Oui, exactement. Oui, c'est des accords, non pas bilatéraux, mais multilatéraux qui permettent des refoulements. En Croatie, cette fois, toujours sur la question des refoulements aux frontières, je vais citer Infomigrant par qui cette histoire nous est parvenue. 5 migrants qui accusent la police croate de violences physiques et sexuelles lors d'un refoulement à la frontière avec la Bosnie en octobre 2020 ont saisi le Conseil constitutionnel le 18 avril, espérant ainsi forcer la justice à mener une enquête alors que leur plainte au pénal n'a rien donné. On parle du Conseil constitutionnel croate. On n'est pas encore dans les instances européennes, mais c'est un peu l'équivalent de la Cour suprême pour la Croatie et la plainte est pilotée par le Center for Peace Studies, le CMS de Zagreb. L'article d'Infomigrant s'intitule « Refoulement violent à la frontière croate » et on y raconte en détail les violences subies par les 5 migrants. C'est assez horrifiant, assez graphique, comme on dirait. Je tiens quand même à vous dire que les migrants aujourd'hui, oui, ils sont sûrement en choc post-traumatique, mais ils sont en sécurité en Allemagne. Donc, une première plainte avait été déposée aux tribunaux de première instance, mais 2 ans plus tard, on en est encore au stade de la pré-enquête. Donc, ça piétine outrageusement. C'est carrément une farce de justice, les délais normaux étant de 6 mois. Donc, je rappelle, ça fait 2 ans que ça niaise. Et c'est pour ça que les plaignants, avec l'aide du CMS, ont décidé de s'adresser aux instances supérieures en espérant que ce soit pris plus au sérieux et qu'un jugement favorable soit rendu avec réparation, non seulement pour les 5 victimes, mais pour condamner les coupables et ceux qui les dirigent et les protègent et pour forcer une réflexion et des réformes quant au traitement des migrants à la frontière croate. Et pourquoi pas, tant qu'à rêver, que ça fasse tache d'huile au niveau européen. Donc voilà, pour Turquie, Lituanie, Croatie, on va écouter quelques petites notes de musique pour nous préparer à l'arrivée de Mathieu avec un bloc autochtone.
Au grand retour.
Oui, un bloc autochtone / international.
À l'international, oui. Ouais.
Mathieu, tu vas même nous amener en Namibie, je crois. C'est assez rare qu'on en parle.
Oui, tout à fait. Bien, on continue notre tour du monde, Simon.
C'est
après
bien.
Le Soudan, l'Allemagne, l'Europe centrale, la Turquie, mm-hmm. on va aller en Namibie, à Taïwan et en Amérique latine.
Ah,
donc,
cool.
Quand même, plusieurs nouvelles. Donc, les Namas et les Hereros, peuple autochtone de Namibie, ont réclamé récemment de participer directement et indépendamment du gouvernement namibien aux renégociations avec l'Allemagne de l'accord contesté sur le génocide conclu en 2021 entre les deux gouvernements. Sa demande fait suite à un rapport récent des rapporteurs des Nations Unies soulignant le statut juridique particulier des deux peuples aux yeux du droit international et rappelant que les mécanismes visant à réparer les crimes coloniaux doivent être élaborés avec les peuples autochtones. L'Allemagne fut responsable dans le pays d'Afrique australe de massacres que de nombreux historiens considèrent comme le premier génocide du 20e siècle. Au moins 60 000 Hereros et environ 10 000 Namas furent tués entre 1904 et 1908.
Histoire peu connue, quand même.
On en a parlé une fois à l'émission, je pense. En 2021, après plus de 5 ans d'âpres négociations, l'Allemagne a reconnu avoir commis un génocide sur ce territoire qu'elle a colonisé entre 1884 et 1915 et promis une aide au développement de 1,1 milliard sur 30 ans qui doit profiter aux descendants des deux tribus. L'Allemagne a souligné que cette aide sera versée sur une base volontaire et à la demande et que l'accord n'est pas comparable à des réparations. De nombreux Namibiens ont rejeté l'accord, estimant que les descendants des Hereros et des Namas n'avaient pas suffisamment été impliqués dans les négociations. Le montant négocié a également été jugé insultant par les représentants des deux peuples qui réclament le versement de vraies réparations, compensations. La Namibie a annoncé en octobre, sous pression de l'opposition au Parlement, avoir demandé à l'Allemagne une renégociation sans préciser les modifications demandées. Donc, c'est à suivre pour la renégociation.
Comme tu disais, c'est un peu à la pièce, donc c'est à la demande des individus.
Oui, j'imagine qu'il faut prouver, faire des démarches. Donc, c'est ça. C'est un milliard, on s'entend que c'est du petit change pour l'Allemagne. Là,
effectivement.
Quand même,
hein. Ouais.
Les Autochtones taïwanais, inspirés par leurs cousins canadiens, par exemple, après des années de lutte judiciaire, la petite nation autochtone Siraya vient tout juste d'être reconnue par le gouvernement taïwanais. Donc, on pense pas qu'il y a des Autochtones à Taïwan, mais il y a des vieux peuples, comme on dit. Mm-hmm. Taux de chômage élevé, faible scolarité, inégalité sociale, les problèmes des communautés autochtones de Taïwan sont semblables à celles du Canada. L'essor et la vitalité de ces petites communautés sont cependant devenus une priorité récemment à Taïwan. Arrivée au pouvoir en 2016, la présidente Tsai Ing-wen a présenté ses excuses aux nations autochtones qui représentent 2,5 % de la population.
OK, quand même.
Les conclusions et les appels au changement de la Commission de vérité et réconciliation du Canada guident notre gouvernement aujourd'hui, soutient le ministre des Affaires autochtones de Taïwan, Isiang Parod. Les documents canadiens ont d'ailleurs été traduits dans les 16 langues autochtones de Taïwan. La grande priorité du gouvernement a été la revitalisation de ces langues bannies pendant 56 ans d'un régime autocratique. Une génération entière a été forcée d'ignorer et d'oublier ses origines. Des cours de langue autochtone sont offerts dès la maternelle depuis quelques années. Avec la progression des élèves, les cours sont dispensés maintenant au secondaire pour la première fois cette année. Les cours d'histoire au secondaire incluent maintenant la réalité autochtone depuis 2019. Plus de la moitié des Autochtones de Taïwan vivent maintenant en ville et n'ont plus cette culture ancestrale. C'est donc encore plus important de transmettre cet héritage ancestral. Un petit exemple sympathique. Fruit de cette inspiration, une exposition conjointe Taïwan-Canada au Musée des beaux-arts de Tainan vient de prendre fin. Elle avait pour thème la persévérance et la résistance. 25 artistes canadiens et taïwanais ont pu exprimer visuellement que les blessures et les combats des nations autochtones se ressemblent. Les références à la crise d'Oka, aux passionnés autochtones, aux conséquences de la perte de la langue et de l'identité étaient nombreuses dans ses œuvres.
Donc, le Canada brille à l'international.
Écoute, à Taïwan, entouré de vaisseaux et de navires chinois. Sinon...
Mais il y avait un bon reportage à Radio-Can sur ça, d'ailleurs, puis on voyait vraiment les liens... Surtout sur la langue, tu sais, les interdictions de parler la langue à l'école.
Exact.
Qui subissaient des sévices corporels s'ils se faisaient prendre à parler leur propre langue.
Oui, je me suis un peu inspiré de cet article-là et ce reportage-là, entre autres.
Mm. Oui, non, c'était bien intéressant.
Bon, espérer les grands principes de la réconciliation sont bien au Canada, mais les résultats sont pas toujours là, malheureusement. Donc, on va souhaiter peut-être des meilleurs résultats aux Autochtones à Taïwan.
Oui, mais ça a l'air d'être une autre approche quand même. Okay. Ils partent d'un peu moins loin. Sinon, au Pérou, un projet de loi cherche à supprimer les protections accordées à des Autochtones isolés, ce qui inquiète des militants qui craignent leur extinction. Environ 25 groupes autochtones isolés vivent dans la forêt amazonienne du Pérou. Ils sont 8000 personnes à peu près en tout. C'est pas beaucoup de gens. Les peuples autochtones en situation d'isolement volontaire et de contact initial au Pérou, qu'on appelle les Piachi, sont protégés par une loi de 2006 qui interdit tout contact avec eux, principalement pour préserver leur santé, car leur système immunitaire est très peu résistant aux maladies courantes.
Moins exposé que
exactement. Que les autres, on en avait déjà parlé aussi à l'émission. Pourtant, un élu a présenté un projet de loi qui vise à la modifier, la loi, ce qui menacerait les garanties juridiques des Piachi et pourrait conduire à la révocation des terres qui leur sont réservées. La proposition présentée par un membre du parti de droite, Fuerza Popular, vise à modifier la loi pour que la responsabilité de la protection des populations isolées et le pouvoir de créer des réserves soient transférés du ministère péruvien de la Culture à chaque gouvernement régional de l'Amazonie. Donc, c'est pas gagné. Hein? Le député a déclaré dans une interview qu'il n'y avait aucune preuve directe de l'existence des Piachi dans son coin qui s'appelle Loreto, au Pérou. C'est un peu ça le discours.
OK, donc une négation.
Là. Exactement. Daniel Vela, chef du peuple autochtone des Matsé dans la région péruvienne de Yaquerana, soutient que le projet de loi est défendu par de nombreux hommes d'affaires qui veulent extraire du bois, faire de l'exploitation minière et pétrolière. Ce projet de loi pourrait conduire à ce qu'environ 4 millions d'hectares de forêts tropicales, soit 3,2% du territoire du Pérou, dans 7 réserves autochtones, perdent leur protection et soient soumis à de l'exploitation et au développement industriel. En terminant, Simon, si tu me permets.
Je te permets.
Dans le pays voisin, au Brésil, c'est un peu différent. Ah. Le président Lula a signé des décrets légalisant 6 nouvelles réserves autochtones il y a 2 semaines, les premiers décrets depuis 2018. Ces réserves garantissent aux Autochtones l'usage exclusif des ressources naturelles en préservant leur mode de vie traditionnel. Sous la présidence de Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne avait augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.
Oh, c'est une catastrophe absolue. Non?
Absolue. De nouvelles homologations devraient avoir lieu prochainement. Prochainement, le mois dernier, la ministre des Affaires autochtones, Sonia Guajajara, a annoncé que 14 terres autochtones étaient prêtes à être légalisées sur près de 900 000 hectares.
En 900 000, OK, c'est quand même intéressant.
Oui, c'est genre 3-4% du territoire. Je la cite en terminant. « Nous, les peuples autochtones, nous représentons environ 5% de la population mondiale, mais nous préservons près de 80% de la biodiversité de la Terre. » a déclaré cet ancien activiste de 49 ans, dont le ministère a été créé par Lula, le gouvernement de Lula, pour donner plus de place aux questions autochtones dans son nouveau gouvernement.
Très intéressant. Donc, on a fait 4 pays, finalement, Mathieu.
Yes!
Donc, nous, on va aller en musique et, tranquillement, ça va être l'agenda ensuite. Donc, on s'en va en musique avec Ezra Collective, la pièce « Life Goes On ».
Respect, y'all gon' respect my time. My God, it's time, that's for your kinship. city to the ghetto. Shout it from the roof when they hear the instrumental. We hot, we hot, you not. Don't smile now, don't you ever have forgot. You was stuck a real life, you was stuck a real lie. I can hear from far, kid lie. Thought that I forgot, not my click, we 6 feet sharp. I don't take no threats, I don't take no fresh. Don't you think that I forget? I don't take no threats, I don't take no fresh. Don't you think that I forget? They make sense, they make sense. Make another one chance. I don't take that threats, I don't take that.
On écoutait Ezra Collective, un quintet londonien en partie afro-descendant qui est souvent apparu dans les palmarès de choc au fil des années. Cette fois-ci, c'était une collaboration avec Sampa the Great, dont on reconnaissait la voix unique, qui, elle, nous vient de Zambie, état voisin de la Namibie, tout est dans tout. C'était la pièce Life Goes On avec un superbe clip tourné à Londres et en Zambie. Life Goes On est tiré de l'album Where I'm Meant to Be, paru en novembre dernier. Donc, à l'agenda des apatrides maintenant, trois suggestions pour vous à vos papiers. Premièrement, un grand événement international à Montréal, la Grande Transition. Deux points, lutter en temps de crise globale, c'est du 18 au 21 mai, donc c'est déjà commencé. Ben, c'est commencé aujourd'hui, mais ça se poursuit jusqu'à dimanche. Pardon. Une bonne centaine de panels et de performances et de conférences, pardon, des invités du monde entier.
Toujours des performances en panel.
Oui, genre de voir les conférenciers faire des performances. Hein. Il n'avait pas prévu ça. Donc, aussi autour de l'axe, le thème très général, des alternatives à notre uber-capitalisme actuel, sous tous les angles possibles, migratoires, oui, mais climatiques, économiques, sociaux, scientifiques, culturels, etc. Ça se passe au cœur des sciences de l'UQAM, au Métro Place des Arts, et pour tous les détails, on consulte lagrandetransition.net. Deuxième suggestion à inscrire à votre agenda, le FITAM, le 16e Festival international de théâtre anarchiste de Montréal, qui se prétend, peut-être avec raison, le plus important festival de théâtre anarchiste au monde. Mm-hmm. Rien de moins. Donc, en tout cas, c'est autant local qu'international comme programmation, Belgique, France, Chili, et aussi Québec, mais avec des accents latins et ukrainiens. Ça se déroule la semaine prochaine du 22 au 25 mai à la Casa del Popolo sur Saint-Laurent, près de Saint-Joseph. Et pour info et programmation, anarchistetheatrefestival.com et pour la billetterie, casadelpopolo.com.
Et c'est beaucoup à la Sala Rossa, les spectacles.
Ah, je croyais plutôt à la Casa del Popolo.
Non, c'est un peu petit pour faire du théâtre.
Effectivement, tu as raison, Mathieu. Mais c'est le même site web pour les deux.
C'est en face.
Troisième et dernière suggestion pour clore l'agenda, manifestation contre le profilage racial qui touche surtout les personnes racisées, afrodescendantes et autochtones. Ça se passe non pas ce samedi, mais l'autre, le samedi 27 mai. Rendez-vous au Square Berry à 13h. C'est organisé entre autres par Coalition Rouge, Outstock et la Ligue des droits et libertés du Québec. C'est pour souligner le troisième anniversaire du meurtre de George Floyd et les revendications principales sont que le gouvernement du Québec reconnaisse le racisme systémique et interdise les interpellations policières arbitraires à la fois sur la route et dans l'espace public en général. Donc voilà pour l'agenda. On va se retrouver dans quelques secondes pour, déjà la conclusion de cette édition.
Oh non.
C'est le même, du 19 mai 2023, des Apatrides Anonymes. Avant de se dire au revoir, je vous laisse nos coordonnées. Le courriel, c'est apatridesanonymes.info. Il y a évidemment notre page dans choc.ca où tous nos épisodes sont en rattrapage. Il y a nos diffusions sur les ondes FM de Radio Victoria, mais ça, vous ne trouverez pas ça en ligne. Donc, Radio Victoria dans la région du Pacifique. Et on a une page...
FB.
Bravo, Mathieu. On va se laisser en musique avec un autre habitué des palmarès de choc, Milankou, groupe post-hardcore de Montréal, une longue pièce instrumentale de 10 minutes que... Oui, qui va conclure en douceur, mais avec une progression. C'est du post-rock, là.
Post-metal.
C'est ça.
Post-metal, oui, oui.
La pièce va s'intituler « À l'aube, point virgule, de leur silence » au pluriel. Donc, toutes les pièces de l'album s'appellent « À l'aube, point virgule, quelque chose » et c'est tiré, vous l'aurez compris, de l'album « À l'aube », sorti en mars dernier sur l'étiquette de Québec « Folivora Records ». Donc, merci. Oui.
Et c'est dans le palmarès métal, loud, de choc actuellement.
Ah, tu me l'apprends. J'ai regardé vite.
Cette semaine, c'est rentré, oui.
Ah, ben, parfait. Merci de le préciser. Puis on invite les gens à consulter les palmarès de choc où il y a toujours plein d'excellentes musiques. Donc, Mathieu, Marie-Ève, merci beaucoup.
Merci à toi, Simon, pour l'animation, le choix musical.
Merci pour la recherche et contenu. Merci, Marie-Ève. On va te retrouver en voix, on l'espère, la prochaine fois dans 2 semaines.
Oui.
C'est pas tant la voix qui manque que la gueule.
L'articulation.
Ben, donc tout est mal à manger.
Je pourrais pas faire des choses en tenant mon crayon dans ma bouche, faire des exercices.
Mais
on t'en demande
peut-être.
C'est ça. On se revoit le 1er juin, Simon, c'est merveilleux.
C'est ça, dans 2 semaines, jeudi 1er juin, pour nous écouter en direct, ce sera à 18h30 sur choc.ca. Avec Marie-Ève, comme je disais, en chair et en voix, et même à l'animation.
À l'animation,
si
dans
je me trompe
semaines,
pas. Donc,
ouais,
réalisation, ouais. Toute la grosse affaire, le grand retour. Donc voilà, c'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca, édition du 18 mai 2023. On se laisse avec Milankou et on vous souhaite une excellente soirée.
Bonne soirée!